Studio Tamani, voici les informations en français.
Auditeurs et auditrices de Studio Tamani, bonsoir et bienvenue à la synthèse de l'actualité de ce vendredi 24 janvier 2025. Au sommaire, les inondations survenues à Bamako et à l'intérieur du pays ont causé environ 100 décès, plus de 150 blessés et près de 3000 greniers emportés. Le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes a présenté hier le bilan de cette catastrophe. La 10e édition du festival Ogobagna débute lundi prochain 27 janvier. Ce rendez-vous culturel du donner et du recevoir a comme thème cette année dialogue entre culture et environnement. Le président de la Confédération des États du Sahel a annoncé hier la mise en circulation des passeports biométriques à partir du 29 janvier prochain. Des habitants se prononcent sur la question dans cette édition présentée par Juliette Koulibaly. Adjaratou Traoré assure la technique. Près de 100 décès. Plus de 150 blessés et près de 3000 greniers emportés par les eaux, c'est le bilan des inondations survenues à Bamako et à l'intérieur du pays entre juin et décembre 2024. Il a été présenté hier jeudi lors d'une réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. La rencontre était présidée par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Oumar Waïgalo pour plus de détails.
Au total, 729 cas d'inondations ont été enregistrés entre juin et décembre 2024. Selon le comité interministériel de gestion des crises, ces catastrophes ont touché plus de 88 000 ménages à Bamako et à l'intérieur du pays. Les inondations ont également occasionné des pertes en cheptels. Des dizaines de ruminants et des volailles ont été emportés. Le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes annonce aussi la destruction de près de 3 000 greniers et magasins. Le Premier ministre général de division Abdoulaye Maïga a annoncé des mesures d'anticipation pour prévenir les futures inondations. Cependant, le chef du gouvernement a évoqué la problématique des constructions bloquant des circulations naturelles de l'eau. Selon le Premier ministre, des discussions avec des propriétaires sont en cours pour trouver une solution. La réunion du comité interministériel de gestion des crises a également abordé des grands projets prioritaires. La situation du pont Woyo-Wayanko sur la route de Sébini Koro et le collecteur de Missabougou en commune 6.
Pour prévenir les inondations, l'année prochaine, l'environnementaliste Boubacar Diarra préconise l'interdiction des constructions anarchiques dans le lit des cours d'eau et marigots. Il affirme aussi que l'État doit déguerpir les maisons qui se trouvent sur les passages de l'eau. Il est joint par Oumar Waïgalo.
L'une des premières stratégies, ça c'est la libération des voies d'eau. Donc les caniveaux doivent être nettoyés, dégagés, tout détritus, de tout immondice, de tout agrégat de construction ou autre obstacle qui peut faire que le caniveau n'arrive pas à laisser passer l'eau. Donc c'est ça. Quand l'eau ne passe pas, ça va remonter à la surface. Et quand ça remonte, donc ça rentre dans la construction. Quand ça rentre dans la construction, ça affaiblit les murs et les constructions les plus fragiles. C'est qu'il faut que les lits des cours d'eau et marigots soient libérés de toute construction anarchique et que l'État doit veiller au respect strict de ces mesures-là pour qu'on n'assiste pas à des engorgements qui vont faire que la population va continuer à souffrir pendant l'hivernage prochain.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur la page Facebook ou le compte X de Studio Tamani. Autre actualité de ce journal, la Journée internationale de l'éducation est célébrée ce vendredi 24 janvier 2025. Le thème choisi cette année est « L'IA et l'éducation, préserver l'autonomie dans un monde automatisé ». Cette journée vise à examiner les nouvelles offres de l'intelligence artificielle dans l'enseignement, l'apprentissage et l'administration de l'éducation. L'intelligence artificielle a-t-elle sa place dans l'éducation? Quelles peuvent être les conséquences? La réponse à ces questions dans ce reportage de Fatoumata Koudjou.
La thématique de cette année est pertinente à plus d'un titre, affirme Tchaoulé Diarra, chef de division planification et des statistiques au ministère de l'Éducation nationale. Selon lui, l'intelligence artificielle innove et aide les enseignants dans l'encadrement pédagogique.
On peut par exemple créer un enseignant virtuel, une classe virtuelle qui est animée et qui est interactive par rapport aux apprentissages qu'on peut donner à un enfant. Il y a des questions qui sont posées, l'enfant répond. En fonction de ça, cet enseignant virtuel peut orienter le niveau de l'enfant. Ça a un apport vraiment important si on arrive à l'exploiter en de bon escient.
Justement, avec une mauvaise utilisation, l'IA peut amener la paresse intellectuelle chez l'apprenant, explique des experts. Abdoulaye Guindo, journaliste et coordinateur de la plateforme Bembéré, estime qu'il faut mesurer son emploi pour minimiser son impact négatif.
L'étudiant qui, lui, rassemblait les résultats et après lui-même faisait la classification, n'aura plus besoin de faire cette classification. Donc ça va pousser les enfants à ne plus pouvoir fournir beaucoup d'efforts. C'est ça le côté négatif. Maintenant, pour positiver l'utilisation, il faudrait peut-être faire des politiques d'encadrement, c'est-à-dire exiger des taux d'utilisation de l'IA dans le traitement d'un devoir à domicile ou bien d'un exercice ou même de la rédaction de son mémoire.
Il ajoute qu'il faut mettre l'accent sur l'apport positif de l'IA. Par ailleurs, le ministère de l'Éducation souligne qu'on doit valider ce nouvel outil d'apprentissage par des comités pédagogiques pour mieux encadrer cette innovation.
Parlons à présent culture. Dans ce journal, dialogue entre culture et environnement, c'est le thème de la 10e édition du Festival Orobanya, prévu du 27 janvier au 2 février 2025 à Bamako. Selon les organisateurs, l'objectif est de contribuer à la résilience à travers l'art et la culture. Cette année, c'est la communauté Mianka qui sera l'invité d'honneur. Il affirme que plusieurs innovations sont aussi prévues pour ce rendez-vous culturel. George Junior est le chargé de communication du festival Orobanya. Il est au micro de Moussa Agmaha.
Alors cette année, on a d'abord décidé de mettre un accent sur la créativité même des artisans maliens pour qu'ils puissent exposer leurs produits. Parce que l'idée du festival, c'est de contribuer à la résilience à travers l'art et la culture. L'autre innovation aussi, c'est qu'on aura un espace enfant avec des jeux, que les enfants aussi puissent se retrouver un peu dans cet environnement-là. Nous allons aussi avoir tout un plateau au Orobanyan Talk pour donner la parole aux acteurs de la culture. Cette année, c'est la communauté Mamala, que beaucoup appellent communément les Mianka. Pour pays invités, nous avons quand même la participation de beaucoup d'artisans qui viennent du Burkina, du Niger, de la Côte d'Ivoire. Et on a aussi le festival de la Guinée, Milo aussi, qui vient à chaque événement.
Cap sur Gao, où les entrepreneurs de la transformation laitière, de la pâtisserie et de la chambre d'agriculture ont reçu du matériel d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Le geste est du GIZ. Ce lot d'équipements est composé de panneaux solaires, de batteries et équipements de maraîchage. Selon les responsables du GIZ, il s'agit de booster la productivité et l'autonomie énergétique. La cérémonie s'est tenue en présence du préfet du cercle et du maire.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Les autorités ont annoncé cette semaine la mise en circulation du passeport biométrique de la Confédération des États du Sahel. Cela à partir du 29 janvier prochain. Des citoyens interrogés à Bamako, Sikasso, Yoroso et Bankas disent que ce nouveau document de voyage défend les intérêts des Africains. Même si des interrogations se posent à certains niveaux, ils se confient au micro de Mariam Koulibaly et nos correspondants.
En réalité, ces documents révèle une grande importance capitale pour ceux qui tiennent à l'indépendance réelle. En effet, ça nous permet de vaguer pleinement et de montrer notre identité partout où le besoin se fera sentir.
De mon point de vue, le plus important côté passeport, c'est la libre échange des personnes et de leurs biens. Si les autorités de la transition peuvent négocier ça avec la CEDEAO, c'est bien.
C'est un passeport qui reflétait en quelque sorte les intérêts des Occidentaux. Mais maintenant, avec le nouveau passeport de l'AES, je pense que ça défend un peu les intérêts même de l'Afrique.
Est-ce qu'on aura besoin de prendre un visa pour aller dans les autres pays avec lesquels on était avec la CEDEAO? Est-ce que ça va modifier les conditions de vie ou bien d'accès des Maliens?
Maintenant, Intala Agbilal nous fait le résumé de l'actualité de la semaine.
Commençons cette rétrospective par l'appel au retour à l'ordre constitutionnel de certains partis politiques. Dans une déclaration publiée ce mercredi 22 janvier 2025, une dizaine de partis politiques exigent des autorités de la transition le retour à l'ordre constitutionnel d'ici la fin du premier trimestre 2025. Ces formations politiques préviennent d'ici de tous les moyens légaux pour l'obtention de cette doléance. Mais de nombreux autres partis politiques ne sont pas de cet avis. Pour eux, la tenue des élections n'est pas une priorité. Autre sujet qui a marqué l'actualité, c'est la mise en place de la force conjointe de lutte contre le terrorisme de l'Alliance des États du Sahel. Selon Salifou Moudi, ministre nigérien de la Défense, l'opérationnalisation de cette force conjointe de 5000 hommes n'est qu'une question de temps. Terminons cette rétrospective par la menace de grève de la coordination des syndicats de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le collectif syndical a annoncé un arrêt de travail à partir de ce lundi 27 janvier. Il justifie ses préavis de grève par la non-application d'un décret présidentiel de 2017 octroyant la prime de recherche aux enseignants-chercheurs du supérieur.
Juste après le magazine, vous aurez le club de Tamani. Nous recevons à présent Lala Diarra Touré pour nous l'introduire. Bonsoir Lala, qui est l'invité du club de ce soir.
Bonsoir Juliette Koulibaly. Ce soir au club, nous recevons M. Djelimadi Sissoko, professeur de musique à l'Institut National des Arts de Bamako. Et nous allons parler essentiellement de la vie de l'artiste, musicien ou encore l'instrumentiste. A tout à l'heure.
Et bonne émission, c'est ce qui met fin à cette édition présentée par Juliette Koulibaly. Adjaratou Traoré assurait la technique. L'insécurité et fiscalité, un défi pour les collectivités, c'est le sujet auquel s'intéresse notre magazine Économie du jour, une réalisation de Fatih Yatara.
Le non-recouvrement des taxes et impôts a eu un impact considérable sur le développement de nos localités, regrette un élu local à Yuwaru ayant requis l'anonymat. Selon lui, dans leur zone, des hommes armés ne se limitent pas à empêcher la collecte des impôts et taxes, mais ils vont jusqu'à se substituer aux agents des collectivités.
Depuis 2011, là, aucun recouvrement de ni taxes ni d'impôts dans la commune, en particulier et dans le cercle en général de Yuwaru. Les nouveaux maîtres du terrain qui nous empêchent de faire des recouvrements, c'est eux-mêmes qui prélèvent les taxes sur les animaux et sur la production. Et en tout cas, les communes sont pratiquement mortes.
De 2011 à 2020, on a assisté à des séquences de périodes dures. Cela à cause d'un refus presque collectif des populations à s'acquitter de leurs devoirs civiques. Ces propos sont de Ibrahim Khalil Touré, maire de la commune urbaine de Diré, région de Tombouctou.
On ne pouvait pas accéder à nos villages. Le second problème, c'est qu'il y a aussi l'incivisme qui est né de la rébellion depuis 2012. Et qu'il n'y avait pas de collectivité, il n'y avait pas de commune, tout le monde était parti.
Ce phénomène a un impact négatif sur l'économie du pays. Selon Abdoulkarim Diamouténé, le paiement des taxes et impôts constitue un socle de développement.
Vous voyez déjà, jusqu'en 2020, etc., on a tout, presque deux tiers du territoire, n'est-ce pas, qui étaient exposés à l'insécurité globale. Donc, ce qui faisait que quand vous prenez les régions de Tombouctou, Gao, même Mopti et Alekida, n'en parlons pas, et donc qui échappent au contrôle de l'État, ce qui fait que déjà, il y avait des pertes en matière de recettes fiscales. Donc, ce qui diminue la capacité de l'État à faire face aux charges régaliennes, les dépenses de santé, les dépenses d'éducation et autres choses.
Moussa Diarra est le sous-préfet de Boura, une localité située dans le cercle de Yoroso. Il affirme que la solution réside dans la volonté politique des collectivités.
Certes, c'est vrai, il y a l'insécurité, mais avec l'appui des autres, c'est-à-dire les maires, les chefs des villages, les conseillers s'y impliquaient, on pouvait au moins se récupérer les impôts d'une manière ou d'une autre, officieusement. Cela est possible.
Certains citoyens maliens se disent conscients de l'utilité des taxes et impôts. Beaucoup estiment en plus que le paiement doit être une affaire de tous.
Ce sont les impôts et les taxes qui aident un pays à se développer et faire des réalisations. Toute personne qui exerce une activité est tenue de payer l'impôt et la taxe à l'État. Quelqu'un qui ne paye pas ses impôts ne doit même pas intervenir dans les débats de construction.
C'est le paiement de l'impôt et la taxe qui permet à une nation d'être développée.
C'est la contribution de la population pour le développement de la patrie, les infrastructures, le renouvellement de notre route.
Pour Albassar Mohamed, maire délégué de Sévaré, le paiement des impôts et taxes est une obligation. C'est une politique sociale permettant aux populations d'intervenir dans la réalisation de leurs infrastructures, leurs réparations et leur entretien, a-t-il ajouté.
L'impôt et
payer les taxes, c'est un versement obligatoire. Ce versement est fait aux autorités administratives de la commune, de la, du cercle, de la région. Mais c'est même une obligation.
En plus de la réalisation des infrastructures, la fiscalité sert à d'autres paramètres économiques. Elle permet également à l'État d'assurer les fonctions régaliennes comme la police, la justice, la défense, explique des techniciens d'impôts.